Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Ray Musicante qui nous parle de son dernier ouvrage, Jean-Pierre Bloch, de Tous les combats, paru aux éditions Glyph. Bonsoir Raïm.
Bonsoir Fandrine.
Alors je ne sais pas s'il est utile, encore une fois, dans cette émission de vous présenter, mais quand même, quelques mots, vous êtes ici chez vous, bien sûr. Journaliste, écrivain, responsable associatif et institutionnel, vous êtes bien connu des auditrices et des auditeurs de Radio Shalom. On vous retrouve chaque semaine dans le podcast Un jour une histoire diffusée sur nos ondes et sur le site de l'ÉCUJ, et vous êtes aussi président de l'association des amis de Radio Shalom. C'est vrai ?
Mais écoutez, si vous le dites, moi je vous crois. Hein.
Vous avez été directeur général du CRIV, du Bnei Brit Europe et du Bnei Brit France, et vous êtes aujourd'hui vice-président de la LICRA Paris. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans vos titres institutionnels ?
Oh, écoutez, ça n'a strictement aucune importance.
Alors ce qui est quand même important, c'est vos ouvrages. Vous êtes venu régulièrement en parler ici, dont Les Magnifiques avec Jean-Pierre Alali, 70 figures d'Israël et plus récemment, Héros du 7 octobre. Et votre actualité, c'est ce nouveau livre, Jean-Pierre Bloch, de Tous les combats, qui dresse le portrait d'un homme qui a traversé tout le XXe siècle de la résistance à la lutte contre le racisme. Journaliste engagé sous le Front populaire, député aux côtés de Léon Blum, Jean-Pierre Bloch refuse les accords de Munich, s'engage dès 1939, s'évade à trois reprises de captivité et rejoint la résistance. À Londres, auprès du général de Gaulle, il dirige le service politique du contre-espionnage. Après la guerre, ministre du gouvernement provisoire, il contribue à la refondation de la presse française avant de se consacrer à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme qu'il mènera avec passion pendant près de 25 ans à la tête de la LICRA. Vous dressez dans ce livre le portrait d'un homme de conviction, fidèle à l'esprit du gaullisme et de l'humanisme juif, dont le courage, la droiture et la foi en la République demeurent d'une brûlante actualité. La première question qui s'impose, pourquoi ce livre? Pourquoi cette biographie? Pourquoi retracer les itinéraires de vie de Jean-Pierre Bloch aujourd'hui?
Alors écoutez, Sandrine, vous savez, on a rarement l'occasion de rencontrer, de travailler, d'aimer, d'apprécier des personnalités comme Jean-Pierre Bloch. Alors je l'ai connu. Je l'ai connu, j'ai connu à la fois ce que vous décriviez, le militant, mais aussi l'homme de cœur, qui avait également un humour extraordinaire. Et puis j'avais envie de faire ce livre, à la fois pour lui rendre hommage, également pour rendre hommage à sa famille, qui est une famille fabuleuse, à sa femme, qui l'a accompagné toute sa vie. Et puis c'est un livre que j'avais commencé il y a quelques années, et puis est arrivé le 7 octobre. Et donc, vous avez eu la gentillesse de me recevoir pour présenter ce livre consacré aux héros du 7 octobre. Et puis, après avoir écrit ce livre, qui restera pour moi le livre le plus difficile que j'ai jamais écrit, et puis avoir tenté de le présenter un peu partout, eh bien écoutez, je me suis remis à ça. Et je dirais que c'est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, en 2025, ce qui nous manque cruellement, eh bien, ce sont des hommes de conviction, de courage. J'ai envie de vous dire qui vont aller jusqu'au bout et qui n'auront pas peur de dire et de faire des choses. Et pour moi, Jean-Pierre Bloch, même si bien évidemment, pour les nouvelles générations, ça ne dit pas grand-chose.
Bien. Alors c'est la question, ouais. Raïm, que j'allais vous poser, c'est que on peut le dire, hein, aujourd'hui, du grand public, c'est une figure un peu oubliée.
Oui, mais vous savez, on est dans un monde où, Sandrine, j'ai très peur qu'on fasse peut-être partie de la dernière génération de lecteurs de livres, en général. Vous savez qu'on est dans un monde qui est le monde de TikTok, de l'iPad, de l'iPhone. Et donc, on est dans un monde où, effectivement, publier un livre historique, c'est un risque à la fois pour l'auteur et l'éditeur, parce qu'on est dans un tel flux d'informations qu'on ne se souvient même plus de ce qui s'est passé hier. Mais je me suis dit, bah, écoutez, moi, c'est pas grave. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, mais je fais ça parce que je me suis dit que j'ai envie de rendre hommage à un grand, tout simplement. Et ce que je vais essayer, et notamment Sandrine, vous m'y aidez ce soir avec votre émission, bien écoutez, c'est de faire connaître Jean-Pierre Bloch aux nouvelles générations, et bien entendu de rappeler à ceux qui ont eu la chance de le connaître, qu'ils ont côtoyé un exemple, je dirais à la fois un exemple juif, un exemple républicain.
Alors c'est essentiel ce que vous dites, parce que c'est un modèle, en tout cas ça peut être un modèle pour les nouvelles générations, ou pour notre génération. C'est une personnalité essentielle qui incarne une certaine idée de la France, et en plus quelqu'un qui était de confession juive, et qui démontre une nouvelle fois comment ces personnalités de confession juive ont fait aussi l'histoire de la France et défendu ses valeurs.
Oui, vous savez, et vous le faites ici et ailleurs, il est important de dire que depuis, même avant les Gaulois, les Juifs étaient présents dans notre pays, et qu'ils ont contribué par leur qualité, par leur talent à la France. Et justement, Jean-Pierre Bloch, c'est tout à fait l'exemple de quelqu'un qui a décidé. Il a décidé de lutter pour une société plus juste, de s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée française, alors que rien ne l'obligeait à le faire, puisqu'il aurait pu être exempté puisqu'il était député, et qui aussi a toujours manifesté son soutien à Israël. Et toute sa vie, j'ai envie de vous dire que jusqu'au dernier jour, il s'est battu contre ce que j'appellerais les ennemis de l'humanité, les racistes et les antisémites.
Selon votre talent, cette manière de raconter de manière très accessible des histoires de vie, eh bien, vous documentez cette vie très riche de Jean-Pierre Bloch. Comment vous avez travaillé pour avoir autant d'éléments ? Est-ce qu'il y a des archives ? Est-ce que c'est la famille qui vous a confié ses secrets ?
Mais écoutez, je crois, Sandrine, qu'on a la même qualité ou le même défaut. C'est-à-dire que nous, quand on se lance dans un travail, que ce soit un livre, une conférence, un exposé, un article, eh bien, on essaie de fouiller un peu partout. Et bien sûr, de ne pas céder à la tentation de Wikipédia, ou de l'intelligence artificielle.
Où il y a souvent beaucoup d'erreurs.
Où il y a beaucoup d'erreurs, et même, je dirais, des erreurs orientées.
Oui. Bon,
vous savez, qui politiquement sont orientées. Eh bien, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir consulter un certain nombre de témoins qui l'ont connu. J'ai beaucoup travaillé également sur des archives. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui a traversé pratiquement tout le XXe siècle, et donc la mine d'informations est absolument inouïe. Et bien évidemment, il a fallu contrôler, élaguer. Et puis, comme vous le dites, moi j'ai voulu faire un livre accessible, qui peut se lire comme un roman, voire un roman policier. Je n'allais pas faire, un livre qui aurait été trop ardu, de 400 pages, que personne n'aurait lu, peut-être à part mon éditeur et le correcteur. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est raconter l'histoire d'un héros auquel on peut s'identifier.
Je vais vous poser une question extrêmement difficile. Comment, en quelques minutes, vous pouvez résumer cette vie, ces combats de Jean-Pierre Bloch, pour que nos auditrices et nos auditeurs aient un aperçu de ses engagements ?
Alors écoutez, son premier combat, c'est qu'il est orphelin à 3 mois. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il est né en 1905. Et quelque chose qui aujourd'hui est absolument commun et tant mieux, mais qui à l'époque était très rare. Son papa, il est ashkénaz. Il est originaire d'Alsace. Sa maman, elle est séfarade. Elle est originaire de Sétif, en Algérie. Et donc, son premier combat, c'est d'apprendre à vivre sans son père, de l'avoir jamais connu. Être orphelin, c'est une première épreuve. Et puis, par la suite, il va s'engager en tant qu'étudiant, plutôt que d'étudier à la Sorbonne, eh bien, il va passer son temps à casser la figure et à se faire casser la figure par les extrémistes de droite. Et comme sa mère trouve qu'il ne fait absolument rien, elle l'envoie à Sousse, en Tunisie. Pourquoi Sousse ? Parce qu'il y a là-bas l'une de ses sœurs et son beau-frère, qui est le président de la communauté de Sousse et en même temps un avocat, et qui le dresse. Et puis, quand il revient, il va devenir journaliste et il va s'engager dans l'action politique. Et notamment, après plusieurs échecs, il va être élu député du Front populaire et au fond, son parrain. Son parrain, c'est Léon Blum, cette grande figure qui nous manque aujourd'hui. Et par la suite, comme vous l'avez indiqué, il prend tout de suite la mesure de la montée du nazisme, c'est-à-dire qu'il va être l'un des premiers à écrire un livre qui est consacré au nazisme. Et puis, avec l'un de ses amis qui s'appelle Marcel Bluestein, et qui, après la guerre, sera beaucoup plus connu sous son nom de résistant, Marcel Bluestein Blanchet, eh bien, ils vont traduire, alors que c'était strictement interdit, Mein Kampf de l'allemand en français pour l'envoyer à ce qu'on appellerait aujourd'hui les influenceurs. Eh bien, écoutez, personne ne va le lire ou presque. Il s'oppose aux accords de Munich, et puis, il s'engage dans l'armée française, il va être pris à trois reprises, il va être emprisonné à trois reprises, il va s'échapper, il va rejoindre le général de Gaulle à Londres, qui, comme vous le dites, va lui confier des tas de responsabilités, puis par la suite, il sera notamment juré dans le procès de Pétain, il sera le seul, à dire qu'il ne faut pas seulement le juger en raison de sa collaboration avec Hitler, mais également pour sa participation à la Shoah. Et à cette époque-là, c'est complètement inaudible, on ne va pas l'écouter. Et puis par la suite, effectivement, il va, disons, épurer la presse collaborationniste, il va s'impliquer dans des tas de combats. Et puis il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'il a été le premier, il a été vraiment le premier à une époque où on les traitait d'aventuriers, de soutenir Beat et Serge Klarsfeld dans leur chasse aux nazis. Et puis, jusqu'au bout, il aura été un combattant. Je voudrais citer son dernier exemple d'action, c'est qu'il sera témoin au procès de Papon à Bordeaux. Et puis, il y a aussi une partie qui est complètement inattendue, puisque pendant 2 ans, il a hébergé Johnny Hallyday.
Alors, j'allais vous en parler aussi.
Ouais.
Alors, merci pour ce résumé, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été un précurseur dans le combat contre le racisme et l'antisémitisme, et finalement, il a posé les bases de cette LICRA moderne ?
Alors, vous savez, la LICRA a été créée en 1928 par Bernard Lecache, et donc il lui succède en 1968, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il va au combat, comme c'est un homme de médias, il sait se servir des médias pour faire connaître la cause d'Israël, dénoncer les antisémites, il va être le premier à faire notamment des procès contre les négationnistes, contre Le Pen, contre d'autres. Il va s'impliquer, pas seulement dans la chasse aux nazis avec les Klarsfeld, mais il va être extrêmement actif dans tous les combats pour obtenir la libération, la liberté pour les Juifs d'Urs, mais également il est impliqué dans d'autres combats, les massacres en Afrique de certaines minorités qui continuent aujourd'hui, en 2025. Il est très proche des gens du voyage. D'ailleurs, dans le journal Le Droit de Vivre, qui est le journal de la LICRA, qui à l'époque était un mensuel, il y avait toujours plusieurs pages consacrées aux gens du voyage. Alors effectivement, vous avez raison, il a utilisé tous les moyens. Et puis une chose qui est très importante, c'est que, alors, aujourd'hui on en parle, mais lui, dès 1968, il a compris que ceux qui pouvaient être les vecteurs du combat contre le racisme et l'antisémitisme, c'était pas tellement les hommes politiques, c'était pas tellement les intellectuels, mais c'était plutôt les artistes. Et donc, il s'est entouré d'artistes. On parlera peut-être de Johnny Hallyday.
Alors justement, je voulais vous en parler parce qu'à vous lire, on voit le nombre de personnes qui l'ont soutenu ou qui étaient amies avec lui. Il devait avoir une personnalité extrêmement attachante. Ça va de Robert Badinter à Johnny Hallyday, qui était vraiment très très proche. Comment vous expliquez qu'un militant républicain de sa trempe ait pu toucher autant de personnalités d'horizons aussi variés ?
Alors, si vous le permettez, moi, j'aurais parlé de mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de charisme, il avait beaucoup de simplicité, il avait le tutoiement facile, et puis il n'avait pas son pareil, à la fois, comment dirais-je, pour vous mettre à l'aise, et puis en même temps pour vous dire, écoute, tu pourrais faire quelque chose. Et donc, comme vous l'avez indiqué, des personnalités aussi diverses que Robert Badinter ou Johnny Hallyday ou Alain Delon, citons également Alain Delon, eh bien on rejoint à des moments ou à d'autres Jean-Pierre Bloch. C'était ce qu'on appellerait une figure charismatique. Et j'ai envie de vous dire que on ne pouvait pas lui résister pour sa force de conviction et je dirais en même temps pour son humour.
Il y a tout au long de votre livre une grande tendresse pour le couple qu'il formait avec sa femme Gabi, qui a toujours été un soutien indéfectible de tous ses combats. Qui elle était pour lui ? Vous l'avez côtoyée aussi. Est-ce qu'elle a vraiment partagé ses combats ? Et quelle était sa place finalement dans ses engagements ?
Alors écoutez, si vous le permettez, je peux vous... oui, alors bien sûr, elle a été avec lui de la résistance. Et si vous le permettez, je vais juste évoquer une date, si vous me permettez de la décliner.
Bien sûr.
C'est le 6 juin 1936. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé le 6 juin 1936 ? Eh bien, c'est très simple. C'est que Jean-Pierre Bloch et Gabi Sadourny décident de se marier. Et ils vont se marier à la mairie de Levallois. Et comme témoin, il y a un ministre de Léon Blum, et il se trouve que le Front Populaire vient de gagner les élections, et il arrive en retard. Et donc, ça va être le mariage le plus rapide de toute l'histoire de Levallois, qui va durer 2 minutes. Le maire fait le mariage très rapidement, on n'a pas le temps de se faire des bisous, des félicitations, et il part. Où est-ce qu'il part ? Il part à ce qu'on appelle la Chambre des députés, qui plus tard deviendra l'Assemblée nationale, où il y a la première réunion, et on a tous en mémoire le fait que Léon Blum va présenter ces fameuses mesures que tout le monde connaît, les congés payés, la semaine qui désormais n'est plus une semaine complètement folle, et ainsi de suite, et qu'il va se faire insulter par des députés de l'extrême droite, notamment Xavier Vallat, qui par la suite va devenir le premier commissaire aux affaires juives, et donc on est toujours le 6 juin, hein. Vous souvenez qu'il vient de se marier le matin, et l'après-midi, en fin de soirée, eh bien, ses amis disent à Gabi et à Jean-Pierre Bloch, allez, on va faire un repas pour votre mariage, et ils ont rendez-vous dans un restaurant, place de l'Opéra, et ils arrivent, et là-bas, ils voient qu'il y a des jeunes militants à la fois du journal de la SFIO, socialiste, le populaire et du droit de vivre, qui est à l'époque le journal de la LICA. La LICRA changera ce nom en 1979, d'ailleurs sur l'impulsion de Robert Badinter. Et ils se font attaquer par des gens de l'extrême droite. Et la police, au lieu de défendre les jeunes militants, eh bien, elle laisse faire. Et ils sont arrêtés. Tous ces jeunes militants sont arrêtés. Et qu'est-ce que font Gabi et Pierre Bloch ? Et vous imaginez qu'ils sont quelque peu endimanchés, puisque c'est leur jour de mariage. Eh bien, ils prennent les journaux et ils commencent, eux, à les vendre. Ils se font aussi ramasser. Et ils se retrouvent arrêtés dans le commissariat qui est à côté de l'Opéra. Pierre Bloch, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, dit « Je veux parler au commissaire. » Et un des agents lui dit « Pourquoi vous êtes le ministre de la Justice ?» Il dit « Non, je suis député. » Il sort sa carte. Et on va lui dire « Bon, mais vous êtes libéré avec votre femme. » Et il dit « Non, tant que les autres militants, les vendeurs de journaux ne sont pas libérés, je ne partirai pas. » Et donc, et Pierre Bloch, ça fait partie des anecdotes que j'ai recueillies auprès de lui, m'a raconté que au fond, une grande partie de sa nuit de noces, ben, il a passé dans une cellule à l'opéra. Alors c'était ça, Pierre Bloch, qui pouvait, je dirais, être quelqu'un qui était dans l'action, mais qui en même temps avait toujours sur lui cet humour. Et je crois que les gens étaient très sensibles à ce mélange.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Reim Musikant, qui nous parle de son dernier livre, Jean-Pierre Bloch de tous les combats, paru aux éditions Glyph. Vous qui avez longtemps dirigé ou accompagné des institutions juives, et vous continuez de le faire, est-ce que vous avez appris, ou qu'est-ce que vous avez appris de Jean-Pierre Bloch sur la façon de conjuguer fidélité aux valeurs républicaines et attachement à l'identité juive qui était sa marque de fabrique?
Bien écoutez, c'était de jamais renoncer à ce que l'on est et d'où on vient. Et je vous donner un exemple. L'exemple, c'est que, comme nous l'avons dit, souligné, après avoir été arrêté trois fois, à la fois par les Allemands, puis par les Français de Pétain, puis ensuite par les Espagnols de Franco, il parvient à Londres, et où donc il aura droit à des responsabilités. Il sera d'ailleurs le premier à écrire une biographie du général en 1946. Alors, donc, français. Mais en 1967, comme vous le savez, le général de Gaulle a complètement oublié que quelques années auparavant, il avait dit à David Ben-Gurion qu'Israël était notre ami, notre allié, et il se lance, avant la guerre des Six Jours, dans ce qu'on peut appeler la politique arabe, avec le succès que l'on connaît. Eh bien, Pierre Bloch, bien qu'il a été très très proche du général de Gaulle, on peut dire que le général de Gaulle, c'était une icône à laquelle il ne fallait pas toucher, eh bien, il n'a pas eu de la moindre doute à s'insurger contre la politique pro-arabe du général de Gaulle en écrivant, en faisant des émissions à la radio, en organisant des grands meetings à Paris et en région. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait des concessions. Donc, qui avait des convictions et qui ne connaissait pas le sens du mot compromission. Et donc, c'est, je crois que très modestement, dans ce que moi j'ai essayé de faire ou que j'essaie de faire, c'est ce que j'ai appris de lui.
Il y a une jolie préface qui est signée de Raphaël, Pierre Bloch, Margot, Salomé, Déborah, Harry et David, qui sont ses descendants. Et finalement, comme vous aussi, restent admiratifs, mais aussi dans leur quotidien, s'imprègnent des valeurs transmises par leur grand-père et arrière-grand-père, hein, c'est bien ça?
Absolument.
Est-ce qu'ils ont accepté facilement cette préface?
Alors écoutez, non, mais c'est mieux que ça. C'est-à-dire que j'avais pensé que Claude Pierre Bloch, qui est un des fils, on a connu aussi Jean-Pierre Pierre Bloch, mais qui malheureusement nous a quittés, tout à fait naturellement, je lui avais demandé de faire la préface en me disant « Écoute, c'est ton père, ce serait formidable. » Et il a dit non. Il a dit non, pas moi. Et finalement, j'ai appris, pratiquement, vous savez, au moment où on remet le livre à l'éditeur, vous dites à celui qui doit vous faire la préface « Alors ?» Et puis tout d'un coup, j'ai vu arriver cette préface magnifique, émouvante, à la fois des petits et des arrière-petits-enfants de Jean-Pierre Bloch. Certains l'ont connu, l'ont côtoyé, la plupart pas, mais on peut se dire que finalement, pour prendre une formule qui nous est chère dans le judaïsme, eh bien, de génération en génération, je dirais que le message de Jean-Pierre Bloch et de sa femme Gabi ont été transmis.
Finalement, on parle de message. Quel est votre message à vous, l'auteur de ce livre, que vous souhaitiez transmettre en mettant en avant les engagements et les combats de Jean-Pierre Bloch?
Eh bien, écoutez...
À une époque qui est particulière, quand même, celle que nous traversons.
Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire de ne pas raser les murs, de faire face et de ne pas se raconter non plus des histoires sur la réalité de ce que nous vivons et qui ne remonte pas seulement au 8 octobre 2023. Hein. Vous savez, c'est que on arrive au terme de cette émission, mais bon, l'antisémitisme a toujours existé. Certains ont cru que avec Auschwitz et avec la création de l'État d'Israël, c'était sous le tapis, mais c'est sorti du tapis et maintenant la menace antisémite est mondiale, elle n'est pas que française. Alors il faut lutter. Il faut lutter et puis pour paraphraser une phrase de quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, il s'agit de Pierre Mendès-France, qui a été un court et remarquable président du Conseil pendant 7 mois. Il avait dit un jour « gouverner, c'est choisir ». Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, pour l'ensemble des citoyens français, pour les juifs, face à tout ce qui se passe, eh bien, il faut aussi choisir. C'est pas facile, mais il faut choisir la façon de faire face, de s'engager.
Vous parliez en introduction, c'est en réponse à une question que je vous posais sur le fait que Jean-Pierre Bloch soit peu connu, mais vous portez cette biographie, vous portez ce livre avec la notoriété qui est la vôtre et votre énergie à faire des conférences un petit peu partout et même en Israël. Vous portez ce livre. Comment il est accueilli et comment cette figure est perçue ?
Eh bien, écoutez, c'est une découverte pour beaucoup. C'est une découverte pour beaucoup à un tel point que j'avais reçu on va s'amuser un petit peu, j'avais reçu un appel de l'Institut français à Tel Aviv.
Que je connais bien, oui.
Vous connaissez bien, et qui m'appelle en me disant « Ah, ben écoutez, on vous attend, c'est formidable. Vous avez sorti un bouquin sur lui alors qu'il va rentrer au Panthéon. » Et ils avaient confondu Jean-Pierre Bloch et Marc Bloch. Et donc, du coup, l'invitation ne s'est pas transformée.
Mais c'est significatif de l'ignorance, finalement.
Oui, mais écoutez, l'autre jour, j'écoutais, vous me direz que ce n'est pas significatif. Vous savez, on fait passer un test aux candidates à Miss France. On leur pose des tas de questions, mais vraiment d'un niveau, j'allais dire, cours préparatoire. Bon, et dans ce monde... où depuis très longtemps on ne sait plus ce que c'est enseigner, eh bien il ne faut pas s'étonner dans un monde où on n'apprend plus l'histoire de façon chronologique, où tout ceci s'évapore très difficilement. Alors les gens apprennent, les gens sont subjugués, et souvent on me dit, bien sûr, tiens, on ne savait pas, et ce qui revient très souvent, c'est comment on aimerait qu'aujourd'hui, en 2025, il y ait des dirigeants, des leaders comme lui, qui aient la force, pas seulement avec les paroles, mais qui ont également agi.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à nos leaders pour ressembler à Jean-Pierre Bloch ?
Le courage.
Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour conclure et terminer cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Eh bien, écoutez, un livre qui peut nous inspirer à être ce que nous sommes, à nous assumer en tant que citoyens français, en tant que juifs, je dirais, fiers de l'être. Et puis surtout, vous savez, moi en général, mes livres, je dis souvent, je ne les fais pas pour ceux qui... me font l'amitié de m'écouter dans des conférences, je le dis, achetez-le pour l'offrir à vos enfants ou à quelqu'un qui est peut-être très loin de tout ça. Je pense qu'au fond, Sandrine, vous et moi, ce qu'on essaie de faire, chacun de toute façon, c'est de transmettre. Et il ne faut jamais renoncer à cela.
Merci pour vos mots, Chaim. Ça donne évidemment envie de lire ce livre et de l'offrir. Chaim Musicante, Jean-Pierre Bloch, de tous les combats, qui vient de paraître aux éditions Glyph et qui rappelle ce livre avec simplicité, mais en même temps éclat humanité, que l'histoire de France, c'est celle de grands hommes qui ont refusé la résignation. Et on entend votre message aujourd'hui, hein, d'avoir du courage et de ne rien laisser passer.
Alors, si vous le permettez, juste un petit mot pour vous dire que ce livre vient de recevoir le prix de l'universalisme du Festival Joséphine Baker 2025.
Félicitations, et c'est bien mérité. Bonsoir et à très bientôt, vous revenez quand vous voulez.
Merci Sandrine.